Laudetur Jesus Christus.
La situation dans la bande de Gaza est de plus en plus préoccupante et douloureuse. Les mots du pape Léon XIV ce matin à l'issue de sa prière audience générale place Saint-Pierre. Le pape qui exhorte à livrer plus d'aide et surtout à mettre un terme au conflit, nous l'entendrons. Et guerre à Gaza, situation extrêmement tendue également en Cisjordanie où une délégation de diplomates de l'Union européenne ont essuyé des tirs de sommation ce mercredi. Condamnation unanime ce soir dans les chancelleries européennes mais aussi au-delà. Dans ce journal également, la Syrie sur laquelle les sanctions internationales sont progressivement levées. Une bouffée d'oxygène dont avait besoin le pays, mais la pauvreté est encore grande, comme nous le verrons avec notre correspondant en reportage à Damas. Et puis direction Madagascar ce soir, où le virus de la polio a été officiellement éradiqué selon l'OMS. Madagascar où le pape François s'était rendu en 2019, un mois jour pour jour après la mort du pape argentin. Nous reviendrons sur cette visite qui a laissé une empreinte profonde, celle du pape qui, malgré la pauvreté, à apporter sourire et espérance.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir. Un appel les yeux tournés vers la bande de Gaza où le drame humanitaire se poursuit. C'est ce qu'a lancé ce matin le pape Léon XIV à l'issue de sa première audience générale tenue place Saint-Pierre. Une audience devant 40 000 fidèles du monde entier et où le nouvel évêque de Rome a voulu exhorter une nouvelle fois à la fin des hostilités.
È sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza.
La situation dans la bande de Gaza est de plus en plus préoccupante et douloureuse. Je renouvelle mon appel du fond du cœur à permettre l'entrée d'une aide humanitaire décente et à mettre fin aux hostilités dont le prix déchirant est payé par les enfants, les personnes âgées, les personnes malades.
Dalle persone malate.
Le pape Léon XIV ce matin, Gaza où la situation humanitaire au cœur donc des préoccupations du Saint-Père, l'enclave où l'aide humanitaire entre toujours au compte-gouttes. L'ONG Médecins sans frontières a accusé aujourd'hui Israël de ne laisser entrer à Gaza qu'une aide ridiculement insuffisante face aux besoins du territoire, seulement pour ne pas être accusé, je cite, de famine imposée à la population. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a lui salué aujourd'hui le refus à l'étranger du blocus et de la famine, qui a conduit notamment l'Union européenne à annoncer le réexamen de son accord d'association avec Israël. Et puis si la guerre à Gaza est toujours aussi meurtrière, la situation en Cisjordanie occupée est-elle aussi toujours extrêmement tendue? En témoigne cet après-midi ces tirs de sommation des diplomates européens en visite dans la ville de Jénine ont été pris à partie par l'armée israélienne. Plusieurs chancelleries européennes comme l'Italie ou la France convoquent l'ambassadeur israélien dans leur pays pour des explications. Et puis toujours dans la région, sachez que la Cour suprême israélienne a jugé aujourd'hui contraire à la loi le limogeage du Shin Bet. Les services de renseignement intérieur, Ronen Bar, avaient été limogé, voulu par le gouvernement Netanyahou. Un limogeage qui avait provoqué de très vives tensions dans le pays et jeté des dizaines de milliers d'Israéliens dans la rue. À la une de l'actualité internationale également, la Syrie qui retrouve peu à peu une légitimité internationale après les États-Unis, c'est l'Union européenne qui a décidé hier de lever les sanctions économiques qui pesaient sur le pays à l'époque de la dictature Assad. Annonce saluée à Damas comme un tournant alors que le pays exsangue espère relancer son économie. Mais sur le terrain, entre hausse des prix, salaires précaires et espoirs prudents, le quotidien reste difficile. Reportage chez les commerçants du sud de la capitale notre correspondant à Damas, Mohamed Erami.
Dans une ruelle au nord de Damas, cette petite supérette ne désemplit pas. À Boutarek, derrière le comptoir, comme chaque matin, fruits, conserves, produits d'hygiène, mais aussi galères d'approvisionnement, inflation et paiement exclusivement en liquide.
Depuis la chute de l'ancien régime, on a déjà vu plus de produits arriver sur le marché. Avec la levée des sanctions, encore plus d'entreprises syriennes comme étrangères pourront vendre leurs produits en Syrie. Forcément, ça fera baisser les prix et les acheteurs auront plus de choix.
Ici, pas de terminal bancaire, pas de paiement mobile et les employés, souvent sans contrat, sont payés à la semaine en espèces. Mohamed, qui livre les courses à domicile et réapprovisionne les rayons, espère voir sa situation s'améliorer.
Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir assez d'argent pour nourrir ma famille. pour ça, il me faut un salaire stable. Alors oui, je suis pour la fin des sanctions.
Mais pour que les échanges reprennent vraiment, il faudra plus qu'une levée des sanctions. La sécurité reste la condition essentielle. Avant la guerre, Damas commerçait avec Alep, la côte. Aujourd'hui, tout ça a ralenti ou disparu.
Mohamed Erami, l'un de nos correspondants à Damas, la Syrie, où les tensions entre communautés restent fortes. L'ONU met une nouvelle fois en garde aujourd'hui contre le risque de reprise du conflit et une plus grande fragmentation du pays. Près de 49 000 Ukrainiens ont été arrêtés pour avoir tenté de fuir illégalement le pays depuis l'invasion russe de 2022. C'est ce qu'a rapporté ce mercredi les gardes frontières en Ukraine. L'Ukraine où l'on attend toujours des pourparlers sérieux de paix. Le pape Léon XIV et le Saint-Siège ont rappelé leur disponibilité à accueillir des discussions directes entre les belligérants. Ce mercredi, le Kremlin a démenti vouloir faire traîner ces discussions sur un possible cessez-le-feu. La Russie ou l'ONG de défense des droits humains Amnesty International est désormais indésirable. Depuis 48 heures, elle figure parmi les 233 organisations interdites d'activité sur le territoire russe. Le parquet général de Russie accuse notamment Amnesty de promouvoir, je cite, des projets russophobes et affirme que l'ONG a constaté et dénoncé des crimes de droit international commis par les forces russes en Ukraine. Pour Marie Strussers, directrice du bureau régional Europe de l'Est et Asie chez Amnesty, c'est une décision aux conséquences graves qui intervient 3 ans après avoir contraint l'ONG à fermer son bureau à Moscou.
Cette nouvelle désignation rend les activités de nos supporters plus ou moins illégales puisque les gens peuvent continuer de recevoir nos informations mais sont à risque de courir des procès juridiques si il ou elle distribue cette information d'Amnesty International. En un certain sens, c'est un compliment à l'envers parce que ça veut dire qu'on fait quelque chose de bien dans le domaine des droits de la personne. En même temps, on lamente le manque de possibilités des voix et des personnes russes d'obtenir des informations indépendantes sur la situation des droits de la personne, non seulement en Russie même, mais aussi si, par exemple, en Ukraine, où les autorités russes attaquent et tuent des civils ukrainiens, bref, commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité sur une base presque quotidienne.
C'est une bonne nouvelle à Madagascar. L'OMS a décrété officiellement hier la fin de l'épidémie de polio sur la grande île. Pour Christine Jones, représentante de l'UNICEF à Madagascar, cette réussite représente une étape majeure dans les efforts continus pour éradiquer la maladie.
Je pense que le succès qu'on célèbre aujourd'hui avec la fin de cette épidémie qui est officiellement déclarée par l'OMS est lié à un effort collectif, à un partenariat fort entre le gouvernement à travers le ministère de la Santé, la société civile et les acteurs locaux et puis bien entendu les partenaires internationaux et notamment l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio qui évidemment a fourni également un gros effort surtout en finançant bien sûr ces campagnes qui coûtent quand même cher. Donc une mobilisation de tous et je crois que c'est grâce à ça qu'on a réussi. Il faut qu'il n'y ait plus un seul cas identifié pendant 12 mois consécutifs, et donc c'est le cas à Madagascar. Mais le message qu'on aimerait faire passer, c'est qu'en fait, il ne faut pas baisser les bras parce que notre vaccination de routine, donc tous ces vaccins que les enfants devraient recevoir entre 0 mois et 2 ans, doit vraiment être renforcé. Il faut vraiment qu'il y ait une couverture vaccinale beaucoup, beaucoup plus grande pour que plus un seul enfant à Madagascar ne soit pas vacciné.
Des propos recueillis par Françoise Niamien. Et puis restons à Madagascar. Le pays avait accueilli le pape François en 2019, un mois jour pour jour après la mort du pape argentin. Nous donnons la parole au père Lazaris Pedro Opeka, fondateur de l'association Akamasoa que le Saint-Père avait visité.
Plus le temps va passer, plus on va se rendre compte comment ce pape était près des gens et il aimait les gens, il aimait le peuple. Et quand il était à Akamasu, le protocole voulait mettre des barrières à l'intérieur de notre salle, grande salle où il y avait 8000 enfants qui l'ont reçu. Il voulait mettre des barrières. Je dis non, pas de barrières ici. Ici, nous sommes à Madagascar. À Madagascar, les gens respectent le hôte. Alors, Le commandant de la garde suisse m'a dit, mon père, je joue mon poste ici. J'ai dit, vous ne jouez rien du tout. Et quand le pape est venu, c'était tellement beau. Il était tellement près des gens. Il pouvait les embrasser, il pouvait les toucher. C'est lui qui touchait les gens, c'est lui qui saluait les gens.
Des propos recueillis par Jean-Charles Puzolu. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous demain matin à 8h30.